Alors Sylvain, on va maintenant prendre en ligne, je crois qu'il est là, quelqu'un que tous les Français connaissent, qui a vécu lui aussi un calvaire, c'est Serge Lama.
Ah oui.
Bonjour Serge Lama, merci d'être là le matin, alors que le matin c'est pas votre heure.
Pas vraiment, non.
Serge, ce matin on parle de ceux qui ont survécu après des accidents de la vie particulièrement graves, et je voulais vous entendre parce que il y a toute une génération qui ignore que dans les années 60, vous avez eu un accident terrible, et c'est quasiment miraculeux si vous êtes sur scène aujourd'hui. Ça s'est passé comment?
Ça s'est passé pendant une tournée d'été, dont Marcel Amont était la vedette, on disait vedette à cette époque-là. Et moi, j'étais en première partie avec ma pianiste, enfin la pianiste de la première partie, et puis et le frère d'Enrico Macias qui conduisait, qui était le régisseur de la tournée. Et comme il était sur deux tournées en même temps, on dormait quasiment, il dormait lui surtout 3-4 heures par nuit, enfin c'était l'horreur.
À l'époque, on chantait 250 fois par an.
Ouais, enfin c'était le début, moi je suis devenu vedette que j'ai chanté 250 jours par an, mais à cette époque-là, déjà Macias, c'était la grande époque de Macias, et puis on faisait beaucoup de concerts, et les Marcel Amont pareil, et c'était les grandes époques où il y avait beaucoup de concerts partout, et on est parti sur route d'Aix-en-Provence, on avait un gala je ne sais plus où, on a tapé à l'heure d'entre chien et loup, c'est-à-dire je sais pas vers 18h, 19h, on a tapé des platanes, 7 ou 8 platanes avec la voiture, et puis les deux personnes à côté de moi, donc le frère de Macias et la pianiste qui m'accompagnait, qui était également ma compagne, sont passés par la vitre parce qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Puis moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance que les arbres qui m'ont pris, j'étais à ce qu'on appelle la place du mort, mais comme les arbres ont fait en quelque sorte le premier coup qu'on a pris a coincé la porte et je suis tombé sur le bord du pare-brise. Et la porte a fait un peu ceinture de sécurité, ce qui fait que je suis sorti vivant, mais quasi mort, alors que j'aurais dû mourir si j'avais été éjecté, je serais comme les autres passagers, je serais mort, quoi.
Alors, fracture multiple, la jambe, la mâchoire, les côtes, enfin, ah, c'est effrayant. Et la jambe gauche paralysée, vous êtes resté combien de temps immobilisé à l'hôpital?
Je suis resté très longtemps parce qu'en fait ça s'est passé par phases. Il y a eu des phases, ils font par phases où il y avait des. J'ai eu 14 opérations à cette époque-là à peu près. Hein. Et à chaque fois, il y avait entre les opérations, il y avait des phases de récupération. Il y avait aussi des phases même d'un petit peu de rééducation, le peu qu'ils pouvaient faire parce que j'étais couvert de plâtre. Et de plus en plus, j'avais un anus artificiel. Il a fallu, j'avais la rate éclatée. J'ai eu une trachéotomie. Je respirais par un trou juste au-dessus des côtes, là, en bas du cou. Et c'était vraiment épouvantable, quoi.
Vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais 22 ans.
Alors, vous êtes
65. C'était
le
13 août.
Le 13 août, c'est ça.
Le 13 août 65. Ouais.
Donc vous êtes resté des mois et des mois. Et alors, à un moment donné, je crois qu'un des médecins vous a dit, il faut que vous sachiez que vous risquez de ne plus jamais remarcher, c'est ça?
Oui, c'est quand je suis arrivé à Paris, parce que j'avais été opéré à l'hôpital d'Aix-en-Provence, parce que là, j'avais pas le choix. C'était vraiment les premiers soins, et j'étais entre la vie et la mort pendant un mois. Et quand on a vu que ils ont vu que c'était à peu près sauvé pour la vie, en me demandant de signer une décharge tout de même parce que c'était pas du sûr, ils m'ont fait ils m'ont rapatrié chaussure à Paris, et là à Cochin, le chirurgien qui a vu tout ce que j'avais m'a dit il faut que tout de suite vous passiez c'est une chance que vous soyez en vie, il faut tout de suite que vous passiez intellectuellement sur une autre phase de votre vie, parce que vous ne pourrez jamais marcher suffisamment normalement pour pouvoir envisager de reprendre le métier que vous exercez.
Alors,
c'est là que je me suis révolté.
Alors vous avez réappris à marcher, quoi, millimètre par millimètre, ça a pris des mois.
Ça a été très difficile parce que j'avais une volonté extraordinaire à cette époque-là, parce que bon, évidemment, quand on fait un métier comme le mien, on a envie de le refaire, on a envie de le reprendre. Moi, j'avais autour de moi des gens qui avaient des choses qui étaient moins importantes que moi dans l'hôpital où j'étais, et qui s'en sont moins bien sortis parce qu'ils n'avaient pas envie de retrouver ou leur famille, ou l'endroit où ils travaillaient, ou etc. Alors que moi, je ne pensais qu'à ça. Alors, aidé par mon métier et par mes amis qui étaient toujours omniprésents autour de moi.
Vous étiez bien entouré?
Oui, j'étais très, très bien entouré. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Marcel, tout ça, Marcel Gobineau et les autres, c'est ça qui m'a sauvé. Hein. Et c'est vrai que millimètre par millimètre, et le mot, on peut pas s'imaginer comme c'est difficile quand on a été immobilisé pendant 2 ans, comme c'est difficile de faire un millimètre de pas, parce que tout le corps est complètement démusclé, quoi. Il n'y a plus rien. J'étais halluciné, je voyais pas de progrès. Et d'un seul coup, ça démarre, et quand ça démarre, après, ça va assez vite.
Alors, Ce que le public oublie souvent, c'est que vous avez d'abord un rire qu'on reconnaît bien, mais lorsqu'on parle avec vous sur un plateau de télévision quand on est assis, vous avez souvent une façon de vous balancer vers l'avant. Et ça, c'est un mouvement qui date de l'hosto, ça, non?
C'est un mouvement, oui, parce que comme je pouvais bouger rien du tout pendant ces 2 ans où j'étais plâtré, j'étais quand même coincé de partout, tout le bas j'étais sur un lit, quoi. Alors, ma seule façon de me créer du mouvement, c'était ce mouvement de balancier que je faisais un petit peu comme Marcel disait, on dirait un cobra. Et j'avais c'est là que j'ai pris cette habitude que j'ai gardée.
Alors, moi qui vous connais bien depuis si longtemps, sur scène, vous avez encore finalement, quand vous chantez dans une chanson que vous marchez de guingois, ça vient de là.
C'est-à-dire que je marche de guingois de toute façon parce que j'étais obligé de truquer ma démarche pendant des années. C'est-à-dire depuis 40 ans, je triche pour boiter le moins possible. Je fais un espèce de roulement sur mon corps qui devient une démarche qui finalement m'est propre et m'appartient. Mais d'une certaine manière, je me déforme en permanence depuis 40 ans parce que c'est pas du tout normal la façon dont je me déplace, quoi.
Vous souffrez encore, 40 ans après, vous souffrez encore du dos?
Bien sûr. Mais je souffre depuis 40 ans, hein. Je souffre depuis 40 ans parce que j'ai mon pied gauche d'abord qui est paralysé toujours, hein. J'ai un truc pour soutenir mon pied gauche depuis 40 ans. Et, je souffre depuis, oui, je souffre de la colonne, je souffre des hanches, je souffre de tout, quoi, depuis 40 ans. Évidemment, avec le temps qui passe, ça ne s'arrange pas. C'est normal.
Vous prenez toujours des comprimés antidouleurs?
Je suis obligé d'en prendre par moment, oui, parce que il y a des moments, effectivement, où le fait de rester sur scène 2 heures dans une attitude, en plus, qui n'est pas naturelle, qui est une attitude créée pour la scène, où je suis obligé de marcher encore plus droit, me tenir d'une façon un peu différente. Là, c'est pour ça que je dis que la scène est mon sport, parce que c'est la vérité. Et je me tiens comme ça, donc ça finit par être extrêmement douloureux.
T'imagines.
Et donc je suis obligé parfois de prendre des choses, mais des choses extrêmement légères, mais qui tout de même, moi j'arrive à fonctionner à l'aspirine, j'arrive à fonctionner à des choses comme ça, alors donc ça m'a permis de tenir le coup.
Alors il y a beaucoup d'auditeurs à l'hôpital, handicapés, qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour leur remonter le moral? Parce que des accidentés de la route, il y en a chaque année des milliers.
Ce que je peux leur dire, c'est que il faut se braquer sur quelque chose, sur un projet, sur
avoir un objectif.
Ouais, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose, même quelque chose peut-être auquel on pensait subconsciemment bien avant et qu'on n'osait pas réaliser, qu'on n'osait pas y penser, je pourrais jamais le faire, ou etc. Quelque chose comme un hobby peut-être et qui permette de fixer sa pensée sur autre chose que sur soi. Parce que c'est la fin, quoi. Si on pense à soi et à sa maladie en permanence, et à ce qu'on a en permanence, on est cuit, quoi. Alors, il faut trouver, moi, c'était mon métier, ça me permettait, je pensais, j'allais monter, je ferais l'Olympia, etc. Mais on peut trouver d'autres choses comme ça, mais s'obsessionner, si j'ose, à employer ce néologisme. Il faut s'obsessionner sur quelque chose qui vous permet d'avancer.
Merci beaucoup, Serge, de ces témoignages. À bientôt. Je sais que on attend tous avec impatience un album qui va sortir au mois de novembre. Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Okay.
Merci beaucoup, Serge.
Merci, Michel. À bientôt.
Au revoir.